Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine par le grand rabbin Avraham Harold Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Demain, ce sera la sidra de Kitavo, l'allumage des bougies. Ce sera donc ce soir entre 18h22 et 19h26. Et demain, la fin du Shabbat, 20h22. Monsieur grand rabbin, comme chaque semaine, on va évidemment souhaiter une bonne fois sur les mains à nos personnes qui sont malades, malheureusement, et également un Shabbat Shalom particulier aux personnes qui sont âgées et isolées. Mazal Tov à Madame Grosam, qui a eu un petit-fils. La Mila aura lieu, je crois, très bientôt à Marseille. Donc on souhaite à Claudine et Roland Grosam, nos amis, qui sont dans la fête d'avoir un nouveau petit-fils. Et juste avant de commencer l'émission, monsieur le grand rabbin, une petite annonce. C'est à la mémoire du Rabbi Binyamin Shaul Ben Shlomo Ringer, Zichron de Tara. Ce sera ce mercredi 21 septembre au Beth Midrash d'Arc et Shalom, au premier étage. Son souvenir sera également rappelé ce Shabbat Kitavo, Shacharit à 7h30 et Kiddush à 9h30. Vous connaissiez Rav Ringer de nom.
Rav Ringer est une très très grande personnalité du monde rabbinique qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt, mais qui a laissé un enseignement très très puissant et très prégnant, puisque nous avons, ne serait-ce qu'à Strasbourg, un certain nombre de ses élèves. Et nous avons bien sûr une pensée très très émue pour lui, pour sa famille, sa fille qui habite à Strasbourg aussi. Et tous ses élèves, ces très nombreux élèves, hein, qui bien sûr n'habitent pas simplement à Strasbourg. Il a laissé des élèves dans le monde entier.
Vous dites qu'il a été créateur notamment des Yeshivas à Nice. Hein.
Exactement, il a fait un travail absolument remarquable de diffusion de la Torah à Nice. Et surtout d'un partage de ce limoud. Hein. Rav Ringer a créé un grand nombre d'élèves grâce à ce partage qu'il a su faire dans le Limoud, mobiliser des personnes autour de lui pour finalement les rendre autonomes en matière de Limoud, leur apprendre à réfléchir, à se confronter au texte. Et cette manière de se confronter au Limoud était quelque chose d'assez nouveau en France. Et voilà, j'ai un regret énorme de ne pas avoir pu le connaître. Et je suis parfaitement conscient du vide qu'il a laissé en quittant ce monde prématurément.
Voilà. Il est décédé en fait d'un accident de voiture quand il revenait d'une simcha. Voilà pour la petite info. Deuxième info, ce sera demain le concert de Moti Steinmetz. Vous connaissez un peu Moti Steinmetz ?
Alors ce ne sera pas demain, ce sera après-demain, ce sera dimanche, dimanche soir à 20h. On a ce merveilleux plaisir et presque cet honneur de recevoir un chanteur tout à fait exceptionnel. Alors, sur les ondes de Radio Judaïka, vous aurez l'occasion, et vous avez déjà eu l'occasion d'entendre un certain nombre d'interviews autour de ce concert, notamment grâce à notre ami Avraham de la fête chassidique. Et c'est important de le rappeler dans notre émission, Jean, qui est un rendez-vous incontournable du vendredi après-midi. Donc le côté tout à fait exceptionnel de ce concert, puisque Moti Steinmetz ne s'est quasiment jamais produit en France de manière officielle. Il est venu notamment pour le grand Sioum HaShas qui avait lieu à Paris il y a 2 ans, mais l'avoir en concert, c'est exceptionnel. L'avoir en province, c'est encore plus exceptionnel. Et alors l'avoir chez nous à Strasbourg, c'est extraordinaire. J'ai dit aujourd'hui, Moti Steinmetz est devenu une star vraiment de classe internationale avec cette voix.
C'est un jeune chanteur.
Voilà, c'est un jeune chanteur, mais il a l'air en tout cas, malgré tout, beaucoup plus jeune que son âge réel, puisque Moti Steinmetz a aujourd'hui 30 ans, même s'il en paraît 15, et il a effectivement gardé cette voix absolument incroyable qui n'a quasiment pas changé donc depuis sa jeunesse. C'est un, rappelons-le, un chassid Vijnitz qui a toujours baigné dans le monde de la musique, s'est toujours distingué par cette voix incroyable qu'il a eu la chance de pouvoir conserver malgré les années. Et il nous interprétera donc un certain nombre de chansons autour de la thématique de Rosh Hashanah. Donc on a essayé de faire de ce concert un moment de partage. On a, grâce à Dieu, déjà vendu beaucoup de places et on a, je pense, réussi notre objectif, notre mission, qui au-delà de la personnalité de Moti Steinmetz, qui est une personnalité qui a cette capacité à rassembler, nous a permis vraiment de réunir des gens un petit peu de toutes les couches de la communauté. C'est ce qui était très très important pour nous, créer un événement qui puisse permettre à des juifs de tout âge, à des juifs de toute sensibilité religieuse, à des juifs vraiment de manière générale, vraiment toute sensibilité, de pouvoir se rassembler autour d'un moment et d'un moment festif. Voilà. Malheureusement, on est trop amené à devoir se réunir dans des moments qui ne sont pas toujours des moments joyeux. Ce sont les moments durant lesquels on a le plus de facilité à rassembler les gens. Bah, pouvoir se rassembler aussi autour de moments festifs, c'est important.
Je pense qu'il doit encore avoir des billets à en vendre.
Bien sûr, et donc n'hésitez pas à venir le soir même, hein, on le dit, même si déjà un grand nombre de billets ont été vendus. La grande Schule de Strasbourg peut accueillir beaucoup de monde, donc on invite encore toutes les personnes qui n'ont pas réservé leur billet, soit bien à le faire, hein, il a encore le temps de le faire en réservant directement sur billet web sur internet, et donc acheter son billet. C'est vraiment ce que je conseille, c'est de le faire encore avant Shabbat ou bien après Shabbat, Motsei Shabbat ou dimanche. Et pour ceux qui ne l'auraient pas fait, eh bien, se présenter directement dimanche soir pour acheter son billet avant le concert.
Alors depuis maintenant pratiquement un mois chez les Sfaradim et à partir de dimanche chez les Ashkenazim, c'est les Slichot. Qu'est-ce que c'est les Slichot, M. Rav?
Les Slichot, c'est un moment de préparation. C'est un moment de préparation à la fête de Rosh Hashanah, à la fête de Yom Kippour, qui correspond à une réalité, hein. En tout cas, en ce qui concerne la date de début de Slichot pour les Sfaradim, qui est le premier Elul, cette date où Moshe Rabbeinu est remonté pour la troisième fois sur le Har Sinaï afin d'obtenir le pardon. Donc il y a une démarche qui est une démarche ici historique, de commencer à prier et de se préparer aux journées de Rosh Hashanah, mais également à celle de Yom Kippour, déjà un certain temps avant, donc 30 jours avant Rosh Hashanah, 40 jours avant la fête de Yom Kippour. Les Ashkenazim, vous l'avez rappelé à l'instant, démarrent les Slichot un peu plus tard, en l'occurrence donc cette année, ce dimanche. Il faut qu'il y ait un nombre, on va dire, minimum de Slichot, donc on ne peut pas se contenter là où, cette année où Rosh Hashanah tombe un dimanche soir. Vous imaginez bien qu'on ne va pas se contenter d'une seule journée de Slichot, c'est la raison pour laquelle on ne commence pas veille de Rosh Hashanah, mais le dimanche d'avant, en l'occurrence ce dimanche. Et c'est toujours un moment phare, c'est toujours un moment phare dans ce calendrier des fêtes et dans cette période si particulière des fêtes de Tishri, parce que j'ai envie de dire que c'est lorsque l'on démarre les Slichot que véritablement on commence à sentir toute la solennité de la fête, des fêtes de Tishri.
Qu'est-ce qu'on dit pendant les Slichot?
Alors, les Slichot sont des textes qui sont composés, alors assez similaires, hein, de manière similaire. C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont construits de la même manière aussi bien chez les Ashkenazim et chez les Sfaradim, à la différence que dans le milieu séfarade, c'est le même texte que l'on récite chaque jour, hein, durant toute la période des Slichot, y compris jusqu'à Yom Kippour, tandis que chez les Ashkenazim, même si le corpus et l'articulation du texte est identique, et on va retrouver notamment comme un leitmotiv, hein, les 13 attributs de miséricorde de Dieu, Hachem, Hachem, El Rachum, Vechanun, etc., qui est exactement. Eh bien, le texte va changer chez les Ashkenazim chaque jour. Ce texte qui accompagne ces supplications, qui accompagne ces 13 attributs de miséricorde, va changer ce texte-là chaque jour. Mais sinon, le texte est finalement assez similaire entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Et ce sont donc un certain nombre de supplications et de textes qui rappellent de manière extrêmement forte la petitesse de l'homme, hein, par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport à sa bonté, par rapport à sa miséricorde. Et c'est une manière vraiment de se préparer, de prendre conscience. Il y a une prise de conscience. C'est ça, en fait, les Slichot, c'est avant tout une prise de conscience pour se préparer correctement à ces fêtes de Rosh Hashanah. C'est tout le principe, finalement. Ouais. Les fêtes de Rosh Hashanah, on le sait, nous invitent à une introspection et elles nous invitent surtout à faire des efforts. Si on veut changer, si on veut pouvoir se changer de l'intérieur, si on veut pouvoir transformer un petit peu notre existence, eh bien, il faut être capable de faire des efforts. Et ces efforts, ça commence par être capable de se lever tôt le matin, en tout cas de manière un petit peu inhabituelle, hein, pour ceux qui ont l'habitude de se lever à 7h, on se lève un peu plus tôt, on se lève à 6h, et c'est par cet effort aussi que l'on montre et que l'on manifeste notre bonne volonté à Dieu.
La paracha de Kitavo, on va faire le résumé de la paracha. Une paracha, alors, il y a une grosse partie qui est en un bloc.
Tout à fait. C'est une paracha donc, qui s'ouvre sur une mitzvah très intéressante, dont on va parler dans quelques instants, qui est la mitzvah des Bikurim, donc les prémices, hein, qui étaient apportées au temple. Je rappelle que c'est une des dernières mitzvot de la Torah, un des derniers commandements de la Torah, qui est donc rapporté dans le texte. Et donc, d'ailleurs, c'est très intéressant de se poser la question, de se demander pourquoi est-ce que c'est ce commandement qui a été choisi petit peu comme vraiment une mitzvah symbole, comme une mitzvah test, hein, puisque on le sait, un homme est extrêmement marqué, c'est naturel d'être marqué par, lorsqu'on a la lecture d'un texte, par les dernières choses que l'on a pu voir dans ce texte et auxquelles on a pu être confronté. Et donc il y avait forcément ici une volonté de placer cette mitzvah, ce commandement des Bikurim, à la fin de la Torah, pour qu'il imprègne les consciences et les mémoires. Donc c'est cette mitzvah qui occupe le début de la paracha. La suite de la paracha est principalement consacrée à ce que l'on appelle les brachot et les klalot, les bénédictions et les malédictions. Donc juste avant cette grande série de bénédictions et de malédictions, on a un avertissement, une série d'avertissements qui est prononcée par Moshe Rabbeinu avant l'entrée en Eretz Israël. Je rappelle que Moïse est en train de donner ses dernières recommandations au clan d'Israël, au peuple d'Israël, avant lui-même de quitter ce monde, hein, parce que Moshe sait qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël, donc il se doit, en tant que bon guide spirituel, de livrer ses dernières recommandations de telle sorte que l'entrée en Eretz Israël ne se solde pas par un échec. Ça serait une catastrophe pour Moshe Rabbeinu, c'est déjà pour lui une difficulté, une peine que de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël, donc il faut que ces recommandations soient pertinentes. C'est ce que Moshe va faire au travers d'une série donc de 12 avertissements qui seront donnés, où on va placer, donc comme on le sait, 6 tribus sur une montagne, 6 sur l'autre, et il y aura une certaine forme d'équilibre ici, avec cette série d'avertissements qui seront prononcés, à laquelle il sera répondu donc amen. Et puis, vous l'avez dit, une partie en bloc un petit peu dans la suite de notre paracha, avec une vision un petit peu prophétique, à la fois de bénédiction, mais surtout, et là on a un déséquilibre par contre, de malédiction, avec des choses absolument terribles qui pourraient arriver au clan d'Israël, au peuple d'Israël, si jamais ils ne respectent pas les commandements. Et c'est vrai que cette partie est assez terrifiante, elle est même plus importante, avec des paroles parfois un peu plus terrifiantes qu'une première série de bénédictions et de malédictions qui nous est familière et que nous avions lue dans la paracha de Bechoukotai. Voilà comment donc se termine et se poursuit notre paracha.
Alors, vous l'avez dit, dans la paracha, il y a un commandement des Bikurim, c'est les premiers prémices, c'est-à-dire que pendant 3 ans, vous dites, si je me trompe, on doit emmener les premières récoltes au Beit HaMikdash. Alors, vous l'avez dit, c'est le paracha, il y a plusieurs questions. Comment on la comprend, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire derrière le fait de donner des prémices au Beit HaMikdash? Qu'est-ce que ça signifie comme information, ou en tout cas comme enseignement?
Alors, le fait d'amener les Bikurim, le fait d'amener ses premiers fruits pour un agriculteur au Beit HaMikdash, c'est une forme d'humilité, une forme de soumission aussi qui est très importante, nécessaire pour l'agriculteur. Rappelons que cet agriculteur s'est investi dans la pousse de ses fruits, qu'il a fait en sorte de réunir tous les outils nécessaires pour que son agriculture puisse se développer, et qu'il y a toujours une forme d'attachement finalement à ses premiers fruits, puisqu'ils sont le résultat d'un travail très souvent laborieux. Et le fait de parvenir à se détacher de ces fruits, qui sont le symbole même de l'investissement et du travail, c'est une forme de soumission, c'est une forme d'humilité nécessaire. Elle est nécessaire pour cet agriculteur de comprendre que s'il a réussi dans son entreprise, c'est bien sûr grâce au travail de ses mains, mais c'est surtout grâce à la bénédiction et grâce au soutien qui lui a été apporté par Dieu, par Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle cet agriculteur devait, alors ça concerne, rappelons-le, les 7 espèces d'Israël, qui sont donc cette espèce extrêmement symbolique, et ce sont donc ces 7 espèces qui étaient concernées par cette mitzvah, d'apporter donc au Kohen, le Kohen représentant ici Akadosh Baruch Hu, représentant bien sûr Dieu, et dans un lieu extrêmement symbolique, puisque ce lieu, c'est le Beit HaMikdash, qui se trouve à Jérusalem, à Yerushalayim. Donc il y a aussi une très très grande symbolique ici au niveau du lieu et de tout ce qui entourait ce moment-là. C'est-à-dire que la mitzvah de Bikurim n'est pas un simple commandement, c'est un commandement qui était accompagné de tout un cérémonial. Ce cérémonial lui-même accompagné d'un récitatif. Donc il faut vraiment ici imaginer une mise en scène qui peut paraître parfois pour le lecteur un petit peu exagérée. On a l'impression que c'est un peu surjoué parfois, mais au contraire, je l'ai dit, c'était un moyen vraiment d'intégrer au plus profond de lui-même pour cet agriculteur cette leçon d'humilité et de soumission, et aussi de la lier à une certaine forme de simcha, de joie.
Alors, c'est la question que vous posez. C'est vrai que on n'a pas l'habitude d'entendre de faire une mitzvah, un commandement, avec de la joie, avec une réjouissance. La joie, c'est tellement important dans la Torah.
Alors, excusez-moi, Jean, de vous contredire. Effectivement, vous dites, nous n'avons pas l'habitude d'accomplir un commandement avec la joie. Il faut accomplir les commandements avec la joie.
Non, simplement, mais dans le texte.
Voilà, exactement. Ce que vous rappelez, et vous le faites à juste titre, c'est de préciser que la Torah n'a pas l'habitude de nous préciser, de nous dire que lorsque l'on accomplit une mitzvah, cette mitzvah doit s'accomplir dans la joie. Exactement. Or, ici, la Torah semble véritablement, elle semble insister, elle semble faire de cette notion de joie une partie intrinsèque de la mitzvah. Alors, on verra que très très grand nombre d'exégètes s'accordent à dire que la joie est une partie extrêmement importante de la mitzvah d'une manière générale, que les mitzvot, les commandements ne peuvent pas être accomplis d'une manière éteinte, il faut absolument mettre de la vie dans ces commandements. Ces commandements ne doivent pas être accomplis par dépit, mais au contraire, ils doivent être accomplis avec une certaine forme de satisfaction, un engagement. Or, cela ne peut se faire que par la joie, et nous verrons d'ailleurs Jean un peu plus tard dans cette sidra, dans ce terrible passage des bénédictions, mais surtout des malédictions, qu'il sera dit que la plupart de ces malédictions, si elles s'abattent sur le clan d'Israël, c'est par un manque de joie, c'est par un manque de capacité du clan d'Israël à pouvoir mettre de la vie justement dans les commandements.
Souvent on dit que c'est la kavana qui génère la joie ou non.
La ferveur,
oui,
alors, ce sont deux notions un petit peu différentes, mais pour lesquelles il y a, on peut trouver un lien, exactement, on peut trouver un lien effectivement entre ces deux notions. La simcha, pourquoi est-ce qu'on peut y trouver un lien ? Parce que la simcha, justement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas ici, la simcha, celle qui est prônée par la Torah, n'est pas nécessairement une forme de joie exultante extérieure. Elle est avant tout une forme de joie intérieure. La joie, c'est finalement, comme je l'ai dit, c'est la satisfaction d'accomplir quelque chose qui a du sens et qui me permet de retrouver une forme d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui doit procurer de la joie, c'est ça ce qui doit procurer une certaine forme de satisfaction, de sérénité pour la personne. Et ça, eh bien, c'est indispensable pour la Torah de le rappeler lorsqu'il s'agit de se séparer de ses prémices. Parce qu'on pourrait penser qu'à ce moment-là, l'agriculteur, il souffre. Ouais. Il souffre en lui-même de devoir se séparer de ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Mmh. Le fait que l'agriculteur se mette dans un état d'esprit dans lequel, eh bien, c'est avec joie qu'il va accomplir cette mitzvah, va totalement transformer la perception qu'il pourrait avoir de ce commandement. Et lorsqu'il transforme cette perception, eh bien, ce n'est pas simplement à cette mitzvah qu'il donne une autre dimension, mais c'est à sa manière d'appréhender le monde et d'appréhender le monde des commandements, le monde des mitzvot.
Alors, on a parlé beaucoup des malédictions, mais il y a, avant la grosse partie des malédictions, il y a 12 malédictions qui commencent et se terminent par les mêmes mots, maudits au début de la phrase.
Tout à fait.
Oui, maudit au début de la phrase et le peuple dira Amen. Quelle différence entre ces 12 malédictions et toutes les autres ? Il y a une sorte, entre guillemets, de sélection ou de préférence ?
Alors, c'est les 12, ces 12 Arourim dont vous venez de parler, Jean, sont une mise en garde de la part de Moshe Rabbeinu, une mise en garde directe en réalité du peuple avant de rentrer en Eretz Israël. Je l'ai dit, c'est un tournant de l'histoire. N'oublions pas, Jean, que le clan d'Israël vient de passer 40 années dans le désert. Ces 40 ans dans le désert sont des années très particulières, puisque le mode de gouvernance est un mode radicalement différent de celui qui attend le clan d'Israël, le peuple d'Israël, sur sa terre. Sur sa terre, il y a une certaine forme d'autonomie que le peuple d'Israël va devoir mettre en place. Il y a une nouvelle manière d'organiser la vie en collectivité, une nouvelle manière d'organiser la justice. Je l'ai dit, un accès à l'autonomie, à l'indépendance qui n'existait pas dans le désert, où le peuple était totalement materné, pris en main par Dieu, par Akadosh Baruch
Hu. Mais là, on a sorti 12 malédictions, il y en a des milliers et des milliers.
Alors tout à fait. Alors, le caractère, on va dire, commun de toutes ces malédictions qui sont énumérées ici, c'est le côté un petit peu caché ici de la faute. Et c'est très important de rappeler ici au peuple qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël, qu'en Eretz Israël, il faudra une transparence absolue. Si le peuple veut pouvoir donner de l'avenir à ce projet, il faut une transparence absolue. Mmh. Le principe, ce que l'on appelle Tocho Kebaro, être à l'intérieur comme on est à l'extérieur, et donc être en capacité aussi, lorsqu'on sera sur sa terre, à s'engager, à respecter les commandements, même ceux pour lesquels il n'y aurait pas forcément de visibilité, être capable de faire preuve d'une honnêteté intellectuelle parfaite à ce niveau-là. C'est un principe de base, c'est un principe fondamental pour le reste de la vie en société. Si on n'est pas capable de faire preuve à la fois d'une transparence, mais surtout d'une honnêteté intellectuelle parfaite, eh bien, on s'expose nécessairement à de très très grandes désillusions.
Alors, la dernière phrase de ce passage 12 de Malédiction, c'est « Maudit soit celui qui ne réalisera pas les paroles de cette Torah ». Sur cette phrase, il y a une discussion entre différents rabbanim, Rashi, Rashban et le Chafetz Chaim. Qu'en dit-on ?
Alors, l'explication de Rashi, je pense qu'elle est incontournable. Et Rashi, effectivement, sur ce Asher lo Yakim, qui est une, vous l'avez dit, Jean, qui est une malédiction qui est générale ici, Rashi nous dit Asher lo Yakim et kol haTorah hazot, donc malheur à celui, maudit soit celui qui ne réalisera pas. Et divré à Torah Azot, les paroles de cette Torah, Rashi nous dit Kan Kalal et Kol à Torah Kula. Cette malédiction englobe la totalité de la Torah, l'ensemble des mitzvot de la Torah, et donc ce qui nous fait dire qu'il s'agit ici d'une malédiction vraiment générale, et qui viendrait non seulement englober les 11 points vus précédemment, mais également tout ce qui n'a pas été énoncé ici. Donc bien sûr, on peut se poser la question de savoir, mais si finalement on termine à la fin en englobant toutes sortes de malédictions, alors pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de faire une liste de 11 premières ? Donc, je répondrai simplement à cette question en disant qu'il était nécessaire d'insister, malgré le fait que bien sûr l'engagement du Klal Israël doit être un engagement global, il n'est pas question pour le peuple d'Israël, en rentrant en Eretz Israël, de n'accepter qu'une partie des commandements qui lui a été donné, auquel, je le rappelle, il s'est engagé de manière absolument ferme et définitive sur le mont Sinaï, lorsqu'il a reçu la Torah 40 ans plus tôt. Voilà. Pour autant, il y avait certains points sur lesquels il fallait insister, et ces points-là, eh bien, nous les avons dit, ce sont toutes ces mitzvot qu'une personne pourrait éventuellement être amené à transgresser en cachette, enfin, ou plutôt c'est à Vérot ici, c'est faute qu'une personne pourrait transgresser en cachette et sur laquelle vraiment on veut absolument attirer l'attention. On a plusieurs autres lectures possibles, vous l'avez dit. Moi j'aime bien la notion de Yakim dans le sens de soutenir, parce que c'est finalement une traduction littérale qui se rapproche presque encore plus du texte que la traduction et l'explication que nous en donne Rashi. Yakim. Yakim, c'est affermir. Yakim, c'est finalement donner du contenu. Yakim, c'est accomplir. Mais il y a ici une notion, effectivement, de soutenir. Donc, ce que l'on attend ici aussi de la personne, c'est qu'elle puisse être capable de soutenir la Torah à la hauteur. À la hauteur de ses capacités, et pas simplement de ses capacités financières. Je pense qu'on peut aller au-delà de ses capacités financières. C'est aussi du temps dont elle dispose, voilà, être capable de s'investir de manière pleine et entière pour cette étude de la Torah et ne pas simplement se contenter de faire le minimum ou d'accomplir les mitzvot, comme je l'ai dit en début d'émission, par dépit, mais vraiment d'être un acteur de cette Torah et un acteur de la manière dont cette Torah va pouvoir s'inscrire dans la vie de cette société au quotidien, de manière à ce qu'elle puisse s'élever et non pas, au contraire, comme on le sait, c'est quelque chose de très très fort dans notre tradition, lorsqu'on n'est pas capable d'élever quelque chose, lorsqu'on n'est pas capable d'avancer, il n'y a pas de statu quo, chez nous ça n'existe pas, il y a forcément une déchéance.
Voilà, le temps, on n'a pas beaucoup à la radio, donc il faut aller très vite. Un mot sur la remontrance, en général, quand on nous dit souvent, les remontrances c'est quelque chose de très particulier, de très spécial, on peut faire quand on veut, quand on peut, pour qui on veut. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter quand voilà. on fait
alors
la
là,
remontrance
alors là, c'est ce commandement, vous savez qu'il existe un commandement positif de la remontrance, je ne sais pas si il ne me semble pas que nous l'ayons déjà abordé dans cette émission, nous l'avons lu il y a quelques semaines dans la parasha de Kedoshim, ce n'est pas dans cette parasha, dans la parasha de Kitavo, que l'on trouve la mitzvah, l'obligation de faire des remontrances. Pour autant, puisqu'il sera question de remontrance, en tout cas de Dieu, à l'égard du Klal Israël, vous avez raison d'aborder ce sujet et de rappeler à quel point c'est un sujet extrêmement sensible, et que même lorsque la Torah exige de chacun d'entre nous l'on soit en mesure de faire des remontrances. Cela doit se faire dans un cadre tout à fait particulier. Alors on pourrait se dire, mais lui, Dieu n'hésite pas à ne pas prendre de pincettes parfois pour faire des remontrances. Mmh, certaines de ses addictions ont l'air extrêmement violentes. Alors on n'imagine pas un homme faire le même genre de remontrance à son prochain. Alors déjà, je répondrai simplement par le fait que nous ne sommes pas à Kadosh Baruch Hu, hein. Dieu peut se permettre des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Ce serait un petit peu problématique que l'on se prenne pour Dieu. Ouais, certaines personnes se prêtent pour Dieu, mais ça aboutit souvent à des catastrophes. Donc il y a bien sûr un minimum d'humilité à avoir par rapport à cela. Effectivement, je pense que la mitzvah de la remontrance, de Ochriach Tochriach et Tamitecha, est sans doute l'une des plus difficiles à accomplir. Parce que pour être en capacité de faire de remontrance, eh bien, il faut déjà soi-même finalement se mettre peut-être à la place de celui à laquelle on va faire des remontrances, de manière à ce que cette remontrance n'ait pas un effet négatif, ça serait une catastrophe, mais au contraire, qu'elle puisse permettre à la personne à la fois d'avoir une prise de conscience, mais surtout d'avoir envie de faire mieux, de rectifier le tir et de ne surtout pas générer une situation de conflit. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de peut-être, lorsqu'on étudiera la parasha Kedoshim l'année prochaine, de revenir sur cette mitzvah et de rentrer dans les subtilités de l'accomplissement de cette mitzvah.
Je voulais vous poser une question concernant, je dirais, la mise en place de la paracha. Pourquoi Dieu a commencé par les bénédictions et pas le contraire ?
Je pense qu'il y a une dimension très, très encourageante et très positive à commencer par les brachot, par les bénédictions. C'est une manière aussi de présenter la Torah, non pas comme une somme d'interdictions, mais au contraire, comme quelque chose qui permet à l'homme de grandir. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose de magique. Vous savez, on est un petit peu, finalement, acteur de la bénédiction, ouais, contrairement à ce qu'on imagine. Genre, il y a une idée reçue comme quoi la bénédiction serait quelque chose d'un petit peu magique. Hein. On demande maintenant, c'est la grande mode aujourd'hui, de demander des bénédictions. En réalité, on est acteur de sa propre bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est un choix de vie. S'exposer à la bénédiction, c'est prendre certaines décisions qui sont des décisions qui vont nous permettre d'être finalement en phase, d'être en phase avec une vie cohérente, d'être en phase avec quelque chose qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre également de grandir les personnes qui se trouvent autour de nous. La malédiction, c'est quelque chose qui arrive, et c'est peut-être, en fait, c'est un état de fait en réalité, c'est quelque chose qui pourrait arriver à une personne qui, alors même si là, les malédictions telles qu'elles sont exprimées dans cette Torah ont l'air extrêmement concrètes, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une vue de l'esprit, ce sont des malédictions très concrètes avec des parfois même des attaques physiques et des promesses de souffrances physiques ou de choses qui sont extrêmement difficiles à la fois à intégrer, à la fois à comprendre, mais nous sommes, et c'est, je pense, vraiment important de le dire, un petit peu acteurs de ce qui va attirer la bénédiction ou de ce qui, au contraire, va attirer ce que la Torah qualifie de klala. Et le fait de commencer par la bracha, voilà, c'est sans doute nous dire que, à partir du moment où on prend les bonnes décisions, à partir du moment où on est soi-même acteur de cette bracha, voilà, cette bracha ne peut pas se dérober. Cette bracha, c'est elle qui va s'installer. Et si cette bracha s'installe, eh bien, elle chassera d'elle-même, finalement, la malédiction. C'est important de commencer avec cela. C'est important de commencer avec cette idée positive et de ne pas mettre le lecteur directement en face de ces malédictions, comme si ces clalotes étaient quelque chose d'absolument inéluctable. Et de donner donc cette impression au lecteur lorsqu'il se confronte à la Torah, qu'il se confronte à un monde qui finira, quoi qu'il arrive, par le phagocyter.
Voilà, fin de cette émission. Les gens étudieront peut-être tout ça bientôt. On rappelle rapidement le dimanche le concert de Moshe Steinmetz. Et on rappelle qu'à la mémoire du Rav Rabbi Benjamin Shaul Ben Shimol Ringer, Shlomo Ringer, Zichron Vera, ce mercredi 21 septembre au Beit HaMidrash d'Ark Shalom au premier étage. Et son souvenir sera rappelé ce Shabbat Kitavo, Shabbat Shacharit 7h30 et Kiddush à 9h30. Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup. Rendez-vous, si tu veux, la semaine prochaine pour une émission spéciale sur la fête de Rosh Hashanah. Merci à Thomas pour la réalisation technique. À vous tous et à vous toutes. Shabbat Shalom. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidden.